Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse aux à côté du débat général annuel de l'Assemblée générale de l'ONU, des événements et réunions parallèles qui, durant 2 semaines, ont animé les salles et couloirs du siège de l'ONU à New York.
You're so right, Mr. Ames. Life is so good to me. And I know I should be singing to the Lord. Yes, I should.
La première réunion de haut niveau organisée à New York, à la veille du débat annuel de l'Assemblée, a concerné les droits des personnes vivant avec un handicap. Une réunion à laquelle ont assisté des personnalités et défenseurs de la cause des handicapés, comme le chanteur américain non-voyant Stevie Wonder, que l'on vient d'entendre, qui à sa manière a manifesté sa joie de voir cette question enfin abordée au plus haut niveau. Une réunion dont s'est également félicité Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui a tenté de sérier le problème.
Le handicap fait partie de la condition humaine. Pratiquement tout le monde souffrira d'un handicap temporaire ou permanent au cours de sa vie. Plus d'un milliard de personnes ont une forme ou une autre de handicap. 80% d'entre elles sont en âge de travailler. 80% vivent dans le monde en développement.
À noter que l'Assemblée générale a adopté, lors de cette réunion de haut niveau, une résolution qui devrait permettre d'améliorer davantage l'accès aux soins de santé et aux services connexes pour les personnes handicapées et de faire en sorte qu'elles puissent contribuer au développement durable de leur communauté. Ce dont s'est félicité l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, par la voix du docteur Étienne Krug. Il est directeur du département pour la prévention de la violence et des traumatismes et du handicap.
Nos services de santé à travers le monde ne sont pas toujours équipés, préparés pour répondre aux besoins des personnes handicapées. D'une part, les personnes handicapées ont les mêmes besoins de services de santé que tout le monde, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une tension artérielle trop élevée, ils peuvent avoir un cancer, ils ont besoin de services de santé à la reproduction, comme tout le monde. Et souvent, ils sont réduits en fait à un handicap et on néglige tous ces besoins. Et plus souvent, ils ont aussi besoin de services spécifiques. Je pense aux services de réhabilitation, par exemple, ou à des dispositifs d'aide, comme justement les chaises roulantes, les béquilles, ou de quoi améliorer la vision ou l'ouïe. Nos services ne sont pas équipés. Notre personnel de santé n'est souvent pas préparé à faire face à leurs besoins. Et donc nous sommes très heureux que le document discuté et adopté dans l'Assemblée générale des Nations Unies à la réunion de haut niveau attire l'attention sur les besoins d'améliorer les services de santé, de mettre en place des services de réadaptation et d'améliorer aussi les statistiques parce qu'on a très très peu d'informations sur le handicap, les personnes handicapées et les besoins dans les pays.
Le débat annuel de l'Assemblée a donc commencé le mardi 24 septembre, marqué par les interventions de nombreux chefs d'État, notamment de Barack Obama et de François Hollande. Ce qui n'a pas empêché la tenue de nouveaux événements parallèles, à l'instar de celui sur les violences sexuelles dans les conflits, qui a permis la signature par 113 pays d'une déclaration d'engagement coparrainée par 17 pays, dont le Sénégal. On écoute la réaction du président sénégalais Macky Fall.
L'humanité est en train de constater, sans une réaction appropriée, les crimes de guerre qui sont observés dans les zones de conflit où les violences, les viols en particulier, même sont utilisés parfois comme armes de guerre. Il est temps que la communauté internationale en prenne conscience et surtout agisse par des moyens appropriés, une législation appropriée pour mettre un terme à l'impunité. Quand on voit ce qui se passe dans certaines zones de conflit, cela dépasse l'horreur et nous devons tous ensemble agir pour que le conflit ne soit pas un prétexte pour en rajouter dans l'horreur et dans la négation même de la dignité humaine.
Des violences qu'a pu vérifier Valérie Trierweiler lors d'un voyage en RDC. On écoute la réaction de la compagne du président François Hollande qui représentait la France lors de cet événement parallèle.
J'ai entendu des témoignages que je n'oublierai jamais. Quand vous voyez ce que j'ai dit, une femme de plus de 60 ans qui n'ose plus aller au champ parce qu'elle a été violée plusieurs fois. J'ai vu une femme de 30 ans qui n'ose plus sortir de chez elle. J'ai vu une jeune femme de 15 ans qui avait été violée, qui a eu une petite fille née de ce viol, et cette petite fille âgée de 18 mois a elle-même été violée. Donc quand vous avez devant vous 4 générations et que ce viol monstrueux, parce qu'il ne s'agit pas de simple viol, si on peut parler de simple viol, il s'agit de viol avec destruction de l'appareil génital, hein, dans le but d'empêcher aux femmes de donner la vie. Je vous en parle avec émotion et j'en parlerai toujours avec cette même émotion parce que je crois que je n'ai jamais rien entendu de pire de toute ma vie à moi.
Autre réunion de haut niveau, celle du mercredi 25 septembre. Elle a permis aux dirigeants mondiaux d'envisager des mesures plus audacieuses contre la pauvreté extrême, la faim et la maladie. Les leaders ont aussi appelé à un sommet qui aura lieu en 2015 afin d'adopter la prochaine série d'objectifs anti-pauvreté qui vont fortement se concentrer sur la réalisation du développement durable. Sur ces points, on écoute Hélène Clark, l'administrateur du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement.
Un message clé de ces consultations a été qu'il ne faut pas renoncer sur les OMD. Réaliser les OMD de réduire de moitié le nombre des personnes vivant dans la pauvreté extrême reste encore 100 millions de personnes extrêmement pauvres dans le monde entier. Donc nous devons être plus ambitieux quant au fait que nous ne voulons laisser personne de côté. Le monde a les ressources et les connaissances pour éliminer la pauvreté et la faim avec la volonté politique, la paix et des ressources adéquates. Tous pourraient avoir accès à des services de santé et d'éducation adéquats. Nous devons maintenant progresser le plus possible sur les objectifs de développement que nous avons, c'est-à-dire les OMD. Plus il y aura de succès sur les OMD, plus le nouvel agenda de développement sera crédible.
Et puis autre événement, le 25 septembre, celui pour célébrer le 20e anniversaire de la conférence de Vienne sur les droits de l'homme et pour évaluer le chemin parcouru, mais aussi améliorer la mise en œuvre des dispositions de la déclaration de Vienne, notamment la création du Haut Commissariat. Leïla Bouril, du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme auprès des Nations Unies à New York.
Le Haut Commissariat a œuvré dans plusieurs domaines, que ce soit dans les droits économiques, sociaux, culturels, les droits civils et politiques, mais aussi toute la question d'alerte par rapport aux violations massives des droits de l'homme dans le monde, dans certains pays. Donc le Haut Commissariat a joué le rôle de ce mécanisme d'alerte au sein de la communauté internationale, mais aussi a permis de soutenir les États dans le développement de différents mécanismes au niveau national pour essayer de répondre ou de prévenir les violations des droits de l'homme. Il y a un certain nombre de hauts commissaires qui se sont succédés et d'ailleurs l'événement en réunit trois. Donc l'actuel haut-commissaire, Madame Navi Pillay, mais également Louise Arbour et Mary Robinson. L'idée de cet événement, c'est un petit peu une sorte de rétrospective, d'essayer de voir effectivement ce qu'on a fait depuis 20 ans dans le milieu des droits de l'homme, mais également essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour effectivement prévenir et protéger davantage les droits de l'homme dans le monde.
Autre personnalité à monter au créneau durant cette période, la chanteuse béninoise et ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, Angélique Kidjo, partie en guerre contre le mariage précoce et forcé. Il faut savoir que chaque année, 14 millions de filles de moins de 18 ans connaissent ce triste sort.
C'est important pour moi de participer à cet événement parce que c'est du gâchis de vie d'abord pour commencer. Un enfant a besoin d'amour et de soutien. Un enfant, ce n'est pas une marchandise. Et ça, je l'ai appris de mon père. Et si mon père, un homme africain, a été capable de dire non à sa famille, à la société dans laquelle on grandissait, en disant « mes filles ont droit à l'éducation pour pouvoir décider de leur vie et de leur futur », aucun père au monde ne peut me dire que ce n'est pas possible. Donc c'est une question de décision qui est prise, c'est une question d'aimer son enfant complètement, que cet enfant soit garçon ou fille, ça n'a pas d'importance. Donc pour moi, il est indispensable que toutes ces petites filles qui souffrent en silence, qui ne comprennent rien ce qui leur arrive, qui se retrouvent dans une autre maison pour servir d'abord de bonnes à tout faire jusqu'à ce qu'elles aient leur première aide pour devenir mère, ne comprennent pas pourquoi leur vie leur a été arrachée. On ne peut pas rester ici en se disant « nous sommes fiers de faire partie de la même famille humaine » et qu'on soit silencieux. Ce n'est pas possible, on ne peut pas se le permettre.
Et puis bien sûr, la question du Sahel a fait l'objet d'une très importante réunion marquée par la participation d'un grand nombre de chefs d'État africains, notamment à commencer par Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta, le nouveau président du Mali qui a plaidé pour un soutien massif et la solidarité de la communauté internationale.
La mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel nécessitera la mobilisation d'importantes ressources. C'est pourquoi je voudrais du haut de cette tribune lancer un appel à la communauté internationale, y compris au système des Nations Unies, aux institutions financières internationales, dont la Banque mondiale et la la Banque africaine de développement, l'Union africaine à travers le NEPAD pour un engagement total à nos côtés et une meilleure coordination des actions à mener en vue de répondre efficacement aux besoins immédiats et à long terme du Mali et des États de la région. Les domaines concernés sont nombreux. La sécurité, la bonne gouvernance, le renforcement des institutions démocratiques et l'état des droits, ainsi que le développement et l'action humanitaire. Le Mali, pour sa part, reste déterminé à appuyer toutes les initiatives au niveau régional et international allant dans le sens d'une complémentarité intelligente et d'une meilleure articulation des interventions, dans l'optique de trouver des solutions durables aux défis et problèmes qui se posent à la région du Sahel.
Autre rassemblement, la première réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur le désarmement nucléaire. Le président de la 68e session, John Ash, a rappelé aux États le lien entre les objectifs du développement pour la période post-2015 et le désarmement nucléaire en soulignant qu'une partie des ressources consacrées aux armements nucléaires pourrait être réaffectée au développement.
La réunion de haut niveau historique d'aujourd'hui nous offre l'occasion d'honorer la vision de la déclaration du millénaire et de renouveler notre engagement pour un monde libéré de la peur. Un monde avec des armes catastrophiques n'est pas sûr. Pas plus qu'il ne permet de parvenir à la paix et à la sécurité pour tous. En tant que président de l'Assemblée générale, je suis prêt à fournir tout le soutien possible pour renforcer et promouvoir le programme de désarmement, ce qui est déjà une grande priorité pour cette Assemblée. S'appuyant sur la réunion d'aujourd'hui et le travail que beaucoup d'entre vous font déjà, nous pouvons faire des progrès significatifs en faisant avancer l'ordre du jour devant nous et en créant un monde qui honore les valeurs qui nous tiennent vraiment à cœur, la sécurité, la prospérité, la paix et le bien-être humain.
Événement complémentaire organisé le lendemain, celui relatif à la ratification du TICEN entendait le traité d'interdiction complète des essais nucléaires afin qu'il puisse entrer en vigueur. Car à ce jour, si 183 pays ont signé le traité et 161 l'ont ratifié, seulement 36 des 44 pays dont la ratification est indispensable l'ont fait. Éclairage de Lassina Zerbo, secrétaire exécutif du comité préparatoire pour le TICEN.
Cet événement, c'est un événement qui amène tous les États à adopter une déclaration finale dans laquelle ils rappellent aux 8 pays restants la norme que nous avons créée en ayant plus de 90% de la communauté internationale qui disent non aux essais nucléaires, la norme que nous avons créée en construisant un système de vérification et un système de surveillance internationale qui donne aux États la capacité à vérifier qu'aucun test ne peut se faire sans être détecté. Et donc, cette conférence, justement, sert à rappeler tous ces éléments-là aux États et à les encourager à ratifier ce traité pour que nous allions vers son entrée en vigueur. Nous avons initié ce qu'on appelle un groupe de personnes éminentes, un groupe auquel nous avons connu une adhésion massive d'anciens premiers ministres, d'anciens ministres des Affaires étrangères, de ministres de la Défense, justement de pays parmi ces 8 pays.
Et puis autre événement, le deuxième dialogue de haut niveau sur la migration internationale et le développement réunit les 3 et 4 octobre. L'occasion d'évaluer les progrès accomplis, d'améliorer la gouvernance en matière de migration, mais surtout de changer les perceptions, comme le souligne la directrice générale adjointe de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, Laura Thompson.
Il y a une participation énorme des migrants dans la chaîne productive du pays, pas seulement économique, c'est aussi le développement des sociétés. Les migrants amènent dans un pays de nouvelles coutumes, la richesse de la culture, et du point de vue de l'éducation, du point de vue de l'art. Alors il y a tout ça qui aide au développement du pays. Aussi, dans les pays d'origine, les migrants envoient très souvent des transferts de fonds qui sont très importants, qui aident au développement des sociétés, des communautés dans les pays d'origine. Ils aident dans les deux pays d'origine et pays de réception.
Voilà, et c'est ainsi que se referme ce magazine Escale sur les nombreuses réunions de haut niveau organisées fin septembre et début octobre à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Un magazine préparé et présenté par Jérôme Longuet avec l'aide précieuse de Jean-Pierre Amissi Ramazani, de Christina Silvero et de Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.